Audible Studio présente Agatha Raisin Enquête, tome 33, Le Diable au corps, de M.C. Beaton, traduit de l'anglais par Marion Schwartz, lu par Françoise Carrière. Chapitre 1. Nu. Il était nu. Certaines personnes sont facilement choquées, mais Agatha Raisin estimait qu'elle n'en faisait pas partie. Elle était détective privée, après tout. Elle n'avait rien d'une petite nature ou d'une poule mouillée. Elle était d'une autre trempe. Cette fois-ci, pourtant, elle fut prise de court. Elle eut beau cligner des yeux, quand elle les rouvrit, il était toujours là, nu comme un ver, dans le plus simple appareil, en costume d'Adam, à poil, bref, dans la nudité la plus complète. Ce n'était pas le genre de vision à laquelle Agatha s'attendait en empruntant une petite route de campagne tranquille en compagnie de son assistante. Et sans admettre, même en son fort intérieur, qu'elle était choquée, elle s'avouait toutefois perplexe. Tony ralentit la voiture et s'arrêta. « Agatha, vous voyez ce que je vois ? Si vous voulez parler du jeune homme nu qui court vers nous au milieu de la route, répondit Agatha, incapable de détacher son regard du spectacle, alors oui, je vois. » L'homme se précipita du côté conducteur, s'accroupit, préférant ainsi présenter son visage plutôt qu'autre chose, et tapa sur le carreau avec insistance. « Qu'est-ce que je fais ?» demanda Tony, paniqué, en se tournant vers Agatha. « C'est peut-être un de ces types qui agressent les conducteurs pour filer avec leur voiture. Il paraît qu'il y en a de plus en plus. » « Des nudistes, pratiquant le carjacking. » Agatha leva les sourcils. « Ça serait une première. Baissez la vitre, Tony. Voyons ce qu'il a à dire. »« Je sais que c'est un peu bizarre, » commença le jeune homme. « Ne soyez pas si dur avec vous-même, » répliqua Agatha. « Tout me paraît parfaitement normal. » « Je parlais du fait d'être nu, » répondit rapidement le jeune homme qui essayait de reprendre son souffle. « Attendez un peu que je devine. Un grand gaillard vous a volé vos vêtements avant de s'enfuir. » « Je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. J'ai besoin de votre aide. Je viens de trouver un cadavre dans les bois juste au-dessus. » Ses yeux clairs brillaient de peur et le tremblement de sa voix n'était pas uniquement dû à sa course folle. « Trouvez-lui de quoi se couvrir, Tony. Il faut qu'on sache ce qu'il en est. Vraiment ?» répondit la jeune femme. « Et si jamais il ment ?»« Tant d'hommes m'ont trahi, » dit lentement Agatha, « que sans me vanter, je sais flairer un menteur, surtout s'il est nu. » « Si vous le dites, » soupira Tony, dont les yeux se posèrent sur le chapeau d'Agatha sur la banquette arrière. Elle se rendait au mariage de leurs amis Bill Wong et Alice Peterson, et le choix du chapeau avait été toute une affaire. Agatha s'était finalement décidée pour un serre-tête bleu foncé orné de fleurs bleues et argent, tout en soie, surmonté d'un panache de plumes tourbillonnant. Tony, bravant les conseils de sa patronne, avait choisi de faire sans. « Non, » dit fermement Agatha, surprenant le regard de son assistante. « Hors de question que mon couvre-chef fasse office de cache-sexe !» Passant la main sous son siège, Tony en sortit alors un vieux t-shirt trop grand qu'elle utilisait d'habitude pour essuyer le pare-brise. « Tenez, » dit-elle en le tendant au jeune homme par la vitre baissée. « Vous pourriez peut-être passer vos jambes dans les manches et... Non, ça pendouillerait par l'encolure. « Couvrez-vous et montez !» coupa Agatha avec une pointe d'impatience dans la voix. « Je veux voir l'endroit où vous avez trouvé le corps. Vous nous raconterez en chemin comment vous avez fini dans cet état. » Le jeune homme noua le t-shirt tel un pagne de fortune et s'assit fébrilement à l'arrière de la voiture. Tony redémarra. « Commencez par le début, » dit Agatha. « Dites-nous qui vous êtes et ce qu'il s'est passé. » « Je m'appelle Edward Casters. Je suis responsable des animations du club naturiste de Mercer. Prenez la prochaine à droite. Vous arriverez au pavillon de notre club. » Tony bifurqua, franchit un portail et s'engagea sur un chemin de gravier sinueux à l'ombre de grands chênes et de hêtres, débouchant sur ce qui semblait être un parking. Une berline rouge était garée devant un bâtiment en bois de plein pied qui, hormis son toit de tuiles en terre cuite, ressemblait à une cabane en rondin géante. « Je suis venu ici un peu plus tôt dans la journée pour préparer notre barbecue annuel et déclencher notre plan d'urgence, » expliqua Edward. « Votre plan quoi ?» demanda Tony. « Qu'est-ce que vous comptiez faire ?»« Aujourd'hui, il fait beau, mais demain, on annonce de la pluie. J'ai mis en place une chaîne d'appels téléphoniques pour avertir que le barbecue prévu demain était avancé à cet après-midi. J'ai appelé deux personnes, qui ont elles-mêmes appelé deux personnes, et ainsi de suite. Tous nos membres ont été informés en quelques minutes. Ça m'a l'air efficace, mais pourquoi ne pas envoyer un email ou un texto? Le samedi, la plupart de nos membres ne consultent pas leurs emails et nombre d'entre eux ne sont pas à l'aise avec leur portable. Mais bien sûr, cela a été fait. Bon, tout ça paraît très sensé, interrompit Agatha en se tournant vers lui. La vue du jeune homme serrant le t-shirt autour de son entrejambe lui parut si gênante qu'elle fit immédiatement volte-face. « Mais qu'est-ce qu'un cadavre vient faire là-dedans? Et où sont passés vos vêtements ?»« Ils sont à l'intérieur, dans le vestiaire des hommes. Je vais aller chercher mon short et mon téléphone. Il faut que j'appelle la police. »« Je crois que vous devriez nous laisser jeter un œil, » commença Agatha. Mais Edward avait déjà bondi hors de la voiture et gravissait les marches du pavillon, les fesses à l'air, ayant laissé le t-shirt de Tony sur la banquette arrière. Tony désigna la silhouette nue d'Edward qui disparaissait à l'intérieur du bâtiment. « Je suppose que ce n'est pas à ça que vous vouliez jeter un œil ?»« Non, mais je me disais qu'il serait sage de s'assurer que personne ne lui joue de tour avant d'appeler la police. »« Remarquez, il n'est pas désagréable à regarder, non ?» commenta Tony en sortant de la voiture, les yeux toujours rivés sur la porte d'entrée. « Je veux dire, il est bien bâti, musclé, avec un beau bronzage. Et puis vous avez vu cette drôle de petite tache de naissance sur sa hanche gauche ?»«
Vous l'avez bien inspecté, dites-moi !» fit remarquer Agatha, tandis qu'elles se dirigeaient ensemble vers le pavillon.
« Je mettais seulement à profit mon sens de l'observation. Dans ce cas, de quelle couleur sont ses yeux ?»« Vous auriez peut-être dû regarder son visage, Tony. Ça vous aurait permis de le reconnaître, même habillé. »
Agatha poussa l'une des grandes portes vitrées en chêne et elles pénétrèrent dans un vestibule carré assez spacieux. Sur leur droite, une porte indiquait « sorcière » et celle d'en face « sorcier ». Tony observait les pancartes, bouche bée. Agatha, quant à elle, s'intéressait davantage au miroir en pied qui occupait tout le mur de gauche. Lissant d'une main son carré de cheveux châtain brillant, elle examina son rouge à lèvres et se félicita du tombé de sa robe qui ne plissait pas, même après un trajet en voiture. Cette tenue lui allait comme un gant, et Agatha était très fière de son ventre plat, le plus plat depuis des années, obtenu de hautes luttes. Elle se souvint qu'il fallait le rentrer un peu, ce qu'elle fit, et se tourna de profil pour apprécier le mouvement du volant qui courait de l'ourlet jusqu'à sa hanche en frou-frou désordonnée avant de s'aplatir. Seules les femmes à la silhouette fine et harmonieuse pouvait se permettre de porter une telle robe, au décolleté certes peu profond, mais aux épaules dénudées, au corsage ajusté et dont la jupe s'évasait à la taille. Tony, elle, lorgnait par la porte des sorcières. Ce type de coupe ne lui irait jamais. Elle était belle, bien sûr, dans le genre blonde aux yeux bleus, mais plate comme une planche à pain, et ni assez chic, ni assez mûre, aucun doute là-dessus. C'est du côté de West Carsley Lane, dit Edward, qui avait surgi dans l'encadrement de la porte du vestiaire, le téléphone collé à l'oreille, un short couvrant désormais sa baguette de sorcier.
« Oui, un cadavre, je suis certain de ce que j'ai vu. S'il vous plaît, dépêchez-vous.
J'espérais que vous nous laisseriez corroborer ce que vous avez découvert avant d'appeler, » dit Agatha quand il eut raccroché.
« Nous avons une grande expérience dans ce genre d'affaires et sommes en très bons termes avec la police locale. D'ailleurs, nous nous rendions au mariage de l'inspecteur Bill Wong et de l'agent Alice Peterson. » « Je suis Agatha Raisin, détective privée, propriétaire de l'agence Raisin Investigation. Et voici ma collègue, Tony Gilmore. »
« Agatha Raisin, mais oui, bien sûr, je vous ai vu dans le Merchester Telegraph. C'est vous qui avez arrêté les trafiquants d'animaux en voie de disparition. Si vous savez qui je suis, alors vous jugerez utile de nous laisser jeter un œil sur le corps. Passez devant. »
Elles suivirent Edward et s'avancèrent sous les arcades face aux portes principales, menant à un bar et à une salle de réception. Des tables et des chaises avaient été disposées autour de la piste de danse. De larges portes-fenêtres s'ouvraient sur une terrasse qui s'étendait jusqu'à une pelouse bien entretenue, bordée de parterres de fleurs éclatants de roses, de dahlias et de géraniums aux vives couleurs estivales. De part et d'autre se tenaient une piscine et un court de tennis.
« J'avais un peu de temps devant moi, » expliqua Edward en leur faisant signe de le suivre.
Agatha retira ses sandales à talons.
Marcher pieds nus, très peu pour elle, mais les talons avaient une fâcheuse tendance à s'enfoncer dans la pelouse. Et si l'un d'eux se cassait net, c'était la chute garantie. Vous pouviez dire adieu à votre dignité. J'avais envie d'aller voir le guerrier solitaire d'un peu plus près, continua-t-il.
Le guerrier solitaire ?
Interrogea Tony. C'est un rocher ancien immense qui se trouve dans une clairière à l'extrémité de notre terrain, répondit Edward. La légende veut qu'il ait autrefois été le théâtre de sacrifices humains. C'est là que j'ai vu le corps. Il était assis sur la pierre.
Assis ?
Demanda Agatha avec une grimace.
Elle s'engagea sur ce qui avait dû être un jour un sentier à l'orée des bois où cailloux, brindilles, feuilles épineuses et autres débris végétaux trop agressifs pour ses doux pieds de citadine se tenaient en embuscade.
Tony avait des chaussures plates et un regard plein de sympathie. Agatha serra les dents et avança, sandales dans une main, pochette dans l'autre.
Pas vraiment assis, plutôt accroupi, recroquevillé, la tête entre les mains. C'est juste là et...
rien. Devant eux, se dressait une pierre grise et érodée, d'un mètre de haut sur deux de long, au sommet plat et assez large pour qu'on s'y allonge, mais il n'y avait rien. Aucun corps accroupi ou recroquevillé. Le soleil, filtrant entre les cimes des arbres, formait une tache de lumière vive sur le sol de la forêt. La pierre se tenait là, toute seule, au milieu de la clairière, où seul le jacassement des pinsons et fauvettes, là-haut dans les arbres, troublait le silence.
« Il a disparu !»
s'exclama Edward, en jetant des regards désespérés autour de lui.
« Je vous jure qu'il était ici. Vous devez me croire !»«
Je vous crois !» dit Agatha en examinant la pierre. « Mais d'expérience, un cadavre ne prend pas la poudre d'escampette. Qu'avez-vous vu exactement ? À quelle distance vous êtes-vous approché ?»«
J'ai vu un homme nu, accroupi, la tête entre les mains !» répondit Edward, tout en regardant frénétiquement autour de lui, comme si le cadavre était susceptible de surgir de derrière un arbre ou d'un massif de fougères.
En voyant l'arrière de son crâne, complètement défoncé, j'ai compris qu'il était mort. Ses cheveux étaient pleins de sang, et lorsque je me suis approché pour toucher son épaule, il était froid comme la pierre.
Pourtant, cette pierre-ci n'est pas froide, constata Agatha en posant une main sur le guerrier solitaire.
Et il y a une zone humide au milieu, une petite flaque d'eau.
D'où cela peut-il bien venir ? Demanda Tony.
Il n'a pas plu depuis des jours.
Difficile de distinguer de quelconques empreintes dans ce fouillis de feuilles et de mauvaises herbes, fit remarquer Agatha en scrutant les alentours.
Mais ça, là, on dirait une trace de pneu.
Un seul pneu ?
Tony fronça les sourcils.
Une moto peut-être ?
Je n'ai pas entendu de moto, répliqua Edward.
J'ai eu les jetons, car au moment où j'ai touché le corps, un téléphone portable s'est mis à sonner. Et ce n'était évidemment pas le mien.
« Pas de poche, » dit Tony.
« Ni de pantalon, » compléta Agatha.
Je me suis dit que les tueurs devaient se tapir dans les bois, alors j'ai pris mes jambes à mon cou, poursuivit Edward. J'ai couru dans cette direction, tout droit à travers les arbres, enjambé la clôture et atterri sur la route.
« Y a-t-il d'autres moyens de sortir de ces bois ?» demanda Agatha.
« J'imagine que oui, mais je n'en suis pas sûre. » Je ne suis venu ici qu'une fois ou deux, et je suis toujours repassé par le pavillon.
Plusieurs sentiers traversent la forêt, intervint Tony, le nez sur son téléphone portable, affichant une vue aérienne de la région.
Il semble rejoindre des pistes qui descendent jusqu'à la route où nous étions, ainsi qu'à deux autres routes secondaires, en direction de Mercester. Donc, quiconque tapit dans les bois à vous observer aurait pu filer sans retourner au pavillon et sans que nous le voyions,
réfléchit Agatha, en balayant la forêt du regard.
Mais si quelqu'un avait décidé de se débarrasser d'un corps ici, dit Tony pensive, pourquoi le reprendre?
Peut-être que ce n'est pas ici qu'on voulait s'en débarrasser, suggéra Agatha.
Peut-être que le meurtrier a été dérangé par Eddie et s'est caché le temps qu'il disparaisse.
Il aura ensuite déplacé le corps ailleurs, par là-bas par exemple, dit-elle en désignant d'épais taillis sous les arbres.
Ce serait... l'endroit arrivé pour cacher un cadavre ?
Finit Tony. Puis répondant au regard médusé d'Agatha et d'Edward par un haussement d'épaule, elle précisa.
Elle dit tout le temps ça ?
Pas tout le temps ? Se défendit Agatha.
Si, si, renchérit Tony. À chaque fois que l'on passe devant un...
Allez jeter un œil, coupa Agatha.
Elle exhiba son pied aux ongles impeccablement vernis et ajouta.
J'ai fait une pédicure hier, ça a tenu jusque-là, mais il est hors de question que je la ruine en explorant ces fourrés.
Tony et Edward se frayèrent un chemin à travers l'enchevêtrement de fougères et de ronces, jusqu'au taillis de rhododendrons qui avaient élu domicile à l'ombre des arbres. Tony ramassa un bâton pour sonder les broussailles et alluma la lampe torche de son téléphone afin d'en éclairer les recoins les plus sombres.
« Il n'y a rien là-dessous, Agatha !»
cria-t-elle. Elle jeta un regard par-dessus son épaule en direction du guerrier solitaire, sur lequel Agatha avait à présent posé ses sandales. Puis, désignant quelque chose entre les arbres, le doigt pointé vers la piscine, derrière sa patronne, elle reprit.
« Mais les ennuis commencent !»
Agatha se retourna et aperçut la silhouette reconnaissable entre mille de l'inspecteur divisionnaire Wilkes marchant sur la pelouse. Il portait un costume d'une couleur brun-gris indéfinissable, assorti à ses cheveux grisonnants et à son teint blafard. S'il venait à s'allonger sur le sol de la forêt, personne ne le remarquerait, songea Agatha. Il se fondrait parfaitement dans l'amas pourrissant de branches et de feuilles mortes, et on ne le retrouverait jamais. Malheureusement pour l'heure, elle le distinguait parfaitement. C'était un homme grand et mince, mais même en cette belle journée ensoleillée, il avait triste mine. Ses yeux de fouine brillèrent sous ses sourcils froncés lorsqu'il aperçut Agatha.
« Qu'est-ce que vous fichez ici ? »
aboya-t-il.
« La même chose que vous, » dit Agatha. « Je cherche un cadavre. Cela ne regarde que la police, »
répliqua-t-il. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Deux officiers en uniforme dépassaient la piscine en trottinant, se dirigeant vers lui. Il leur fit signe de se dépêcher.
« L'un de mes hommes va prendre votre déposition et vous pourrez disposer. »
« Une déposition ? Je ne vois aucun crime ici. »«
Ça, c'est à moi d'en décider, pas à vous !»
fit Wilkes d'un ton sec.
« Où est l'individu qui nous a signalé le corps ?»«
C'est le jeune homme en short là-bas, » répondit Agatha en désignant Edward. Celui-ci rebroussait chemin en compagnie de Tony, tentant de se frayer un passage à travers les ronces.
« Mais il semblerait que le corps ait disparu. »«
Qu'est-ce que vous racontez ?»
l'interrompit Wilkes.
« Comment un cadavre pourrait-il disparaître ?»
« D'après ce que je comprends, il était assis sur cette pierre, » expliqua Agatha, se penchant pour en examiner la surface. « Mais lorsque nous sommes arrivés ici, il n'y avait qu'une petite flaque d'eau, qui s'est elle-même asséchée. »«
Ridicule !»
gronda Wilkes.
« Un corps ne s'évapore pas comme l'eau. »«
Je sais ce que j'ai vu, » intervint Edward. « Le corps d'un homme au crâne défoncé. J'ai entendu un téléphone portable sonner dans les broussailles. J'ai pris peur et j'ai couru chercher de l'aide. »
« Il faut que vous boucliez la zone et que vous fassiez venir les gars de la police scientifique, » dit Agatha. « Ensuite, vous devrez passer les bois alentour au peigne fin et il n'y aura rien de tout ça !»
grogna Wilkes, balayant l'idée d'un revers de main.
« N'essayez pas de m'apprendre mon métier, Mrs. Raisin !»«
Comme nous avons si souvent pu le constater, inspecteur, il faut bien que quelqu'un s'en charge !» répliqua Agatha en levant le menton et en croisant les bras.
« Je n'ai pas suffisamment d'hommes pour perdre du temps à traiter ce genre de canular !» « La moitié de mon effectif semble avoir pris congé pour assister au mariage de Wong et Peterson. »«
J'en déduis que vous n'avez pas été invité. » Agatha adressa à Wilkes un sourire des plus hypocrites et ramassa ses sandales.
« Justement, Tony et moi nous y rendions. »« Belle journée pour un mariage !»
fit une voix grave et puissante en provenance du pavillon. Agatha et Wilkes se retournèrent et aperçurent un homme aux cheveux bruns d'une quarantaine d'années qui s'avançait vers eux. Il n'était pas aussi grand que Wilkes, mais mieux bâti, avec de larges épaules et des muscles bien dessinés. Ses yeux bleus perçants contrastaient avec sa peau hâlée et il portait une barbe coupée avec autant de précision qu'un bonsaï. De même, les poils de son corps étaient habilement taillés, mettant ainsi en valeur son physique impressionnant. Si Agatha pouvait jauger ses attributs avec autant de minutie, c'est parce que le nouveau venu était parfaitement nu. Cependant, contrairement au jeune homme qui avait déboulé au milieu de la route, une aura de sereine maturité émanait de l'homme à barbe. Il rayonnait d'une assurance qu'Agatha trouvait tout à fait séduisante. À un poil près, elle n'avait jamais aimé les barbes.
« À quoi vous jouez, vous ?» beugla Wilkes. « Couvrez-vous immédiatement !»«
Je n'ai aucune envie de m'habiller pour l'instant, » répondit l'homme.
« Ah, vous n'avez pas envie !»
Wilkes héla l'un de ses agents en uniforme, lui faisant frénétiquement signe d'approcher.
« Gittins ! Arrêtez cet homme !»«
Pour quel motif je le coince, chef ?»
demanda l'agent.
« Il est inculpé en vertu de l'article 66 de la loi sur les infractions sexuelles de 2003.
exhibition de ses parties génitales dans l'intention de provoquer la crainte ou la détresse d'autrui,
affirma Wilkes, citant rigoureusement la loi.
Et vous allez tous les arrêter ?
Demanda Agatha, en faisant un signe de tête en direction de la pelouse, où un petit groupe d'hommes et de femmes nus de tous âges et de toute morphologie commençait à se rassembler. Ils se tenaient immobiles et les regardaient fixement, semblables à une foule de statues de chair. Lorsqu'il aperçut la horde des vêtus, Wilkes resta bouche bée.
« Le fait est, chef, dit l'agent Gittins, que c'est un club naturiste, donc tout le monde a le droit de se promener dans le plus simple appareil. »
« Merci pour l'explication, Yann, » dit l'homme à barbe en lui adressant un signe de gratitude.
« Vous connaissez cet homme, Gittins ?»
demanda Wilkes en jetant un regard noir à sa jeune recrue.
« Oh oui, chef !» répondit celui-ci. « Tout le monde connaît Jasper Crane, c'est notre président. »«
Votre président ? Vous voulez dire que vous ?»«
Exactement, inspecteur, » répondit Jasper en souriant. « Yann est l'un des nôtres. »
« Nous vous verrons au barbecue tout à l'heure, Yann, n'est-ce pas ?»«
Moi et ma petite femme, on vient dès que j'ai fini mon service !»
dit Gittins, ôtant sa casquette pour s'éventer. Il tira sur son lourd gilet pare-balles pour faire circuler un peu d'air.
« J'ai hâte de piquer une tête dans la piscine !»«
Eh bien !»
marmonna Wilkes.
« Je suis content de ne pas être là pour voir ça !»
Puis il éleva la voix pour s'adresser à son agent.
« Dispersez cette foule de... vos amis, Gittins !»«
Et vous ?»
Il désigna un autre agent.
« Fouillez les alentours à la recherche de tout élément suspect, puis prenez la déposition de la personne qui a passé l'appel. Je retourne au bureau. »«
C'est tout ?»
s'écria Agatha.
« Vous n'allez pas ouvrir de véritable enquête ?»«
Ce que votre ami en short a vu, en supposant qu'il n'ait ni complètement perdu la tête, ni halluciné, n'était sans doute qu'une mauvaise farce de ses copains nudistes. Si j'ai besoin d'une déposition de votre part, Mrs. Raisin, je sais où vous trouvez. Je n'ai qu'à chercher les ennuis et vous n'êtes jamais bien loin. »
Oh, quant à vous, c'est encore plus facile, renchérit Agatha, fixant Wilkes de ses petits yeux d'ours. Je n'ai qu'à soulever un caillou et vous en sortez en rampant.
Wilkes émit un grognement et rejoignit le pavillon d'un pas décidé. Il passa devant deux femmes d'un certain âge, un peu chétives, qui portaient un ample cafetan brodé de symboles astrologiques dorés. Elles se dirigèrent vers Jasper et l'une d'entre elles lui tendit un peignoir de soie noire.
« Nous avons pensé que cela pourrait vous être utile pendant que vous parlez aux prudes, » dit-elle.
« Merci, mesdames, » répondit Jasper en leur adressant un sourire chaleureux.
Il endossa le peignoir orné de soleils flamboyants, de planètes éclatantes, d'étoiles scintillantes et de comètes filantes, tous brodés d'or. Il ne se fermait pas, mais les bords se rejoignaient au centre, couvrant ainsi sa nudité. Les femmes s'inclinèrent et revinrent sur leurs pas, enlevant prestement leur cafetan dès qu'elles posèrent le pied sur la pelouse.
« Aux prudes ?» s'étonna Agatha, en levant un sourcil.
« C'est une petite formule ironique que nous utilisons lorsque nous recevons des visiteurs habillés au sein du club. Nous sommes les nudistes et eux les prudes, trop pudiques pour se dévêtir, voyez-vous »
« Oui, je vois très bien, » fit Agatha un brin irrité. « Je ne crois pas qu'on m'ait jamais traité de prude. »
« Je vous en prie. » « Ne le prenez pas si mal. Vous et votre ami êtes les bienvenus si vous souhaitez vous joindre à nous. »
Il tendit le bras gauche en direction du pavillon. Son peignoir s'entr'ouvrit, si bien qu'Agatha put voir ce qui avait été auparavant couvert. Elle s'aperçut soudain qu'elle le fixait et détourna les yeux.
« Il n'y a pas de mal à regarder, » dit-il d'une voix douce. « Nous nous regardons tous, nous nous comparons tous, c'est la nature humaine. Et après tout, nous sommes naturistes. » En revanche, nous ne jugeons jamais.
Comme c'est rassurant, répondit Agatha.
Agatha, il faut vraiment qu'on y aille, l'interpella Tony en jetant un œil à sa montre.
Ah oui, le mariage, se souvint Jasper. Laissez-moi vous raccompagner au pavillon.
Je souhaiterais m'entretenir rapidement avec Edward avant de partir, dit Agatha, et elle le rejoignit de l'autre côté du guerrier solitaire.
« Je suis sincèrement désolée pour tout ça, Mrs. Raisin, » dit Edward. « Mais j'ai vraiment vu un corps ici, sur cette pierre. Je ne l'ai pas inventé. J'ai l'impression de vous avoir fait perdre votre temps. »«
J'ai horreur que l'on se moque de moi. Et si jamais c'était le cas, je vous le ferais regretter. »
Edward baissa les yeux, frottant ses pieds l'un contre l'autre comme un vilain garnement devant sa maîtresse d'école.
Mais je pense que vous dites la vérité, poursuivit Agatha. Bien qu'il n'y ait aucune trace de crime, encore moins de meurtre brutal. C'est un mystère, et il se trouve que je déteste laisser une énigme en suspens.
Nous allons vous aider, n'est-ce pas, Agatha ?
Proposa Tony avec empressement.
Nous tirerons cela au clair et protégerons vos arrières, Edward.
Eh bien, oui, bien sûr, acquiesça Agatha, prise au dépourvu, devant l'enthousiasme débordant de son assistante.
Quand l'agent prendra votre déposition tout à l'heure, demandez-en une copie. Cela nous permettra de la passer en revue ensemble plus tard.
Le jeune homme les remercia pour leur bienveillance, puis Tony et lui suivirent Jasper qui escortait Agatha au pavillon. De plus en plus de monde se pressait sur la pelouse, transformant le jardin et les alentours de la piscine en une vraie fourmilière. Des jardiniers assidus, ne portant rien d'autre que des gants renforcés, coupaient les rousses fanées. Ici et là, on s'activait à tailler les haies à la cisaille, à récupérer les feuilles et les insectes tombés dans la piscine et à balayer le patio.
Agatha n'avait jamais vu autant de gens nus. Ils lui sourirent et la saluèrent quand elle passa à côté d'eux, lui donnant l'impression d'être la bienvenue tout en ne se sentant absolument pas à sa place.
Nous nous chargeons nous-mêmes de l'entretien du lieu, expliqua Jasper. Nos membres viennent de tous horizons, plombiers, comptables, médecins et même, comme vous le savez, des agents de police.
Les deux femmes, qui avaient apporté son peignoir à Jasper, s'approchèrent cette fois sans leur cafetan. Au vu de leur chevelure brune identique et de la ressemblance de leur silhouette, Agatha aurait pu jurer qu'elles étaient sœurs.
« La crème glacée est dans le congélateur, Jasper, » annonça la première.
« Et le pain est au four, » confirma l'autre.
Jasper les remercia toutes les deux, elles s'inclinèrent à nouveau et tournèrent les talons pour rejoindre les jardiniers.
Pourquoi s'incline-t-elle ainsi devant vous ?
L'interrogea Agatha.
Je sais que vous êtes le président du club, mais c'est un peu excessif.
Presque humiliant, je dirais.
Ce sont mes servantes, répondit Jasper avant d'éclater de rire en lisant le dédain sur le visage d'Agatha. Ne vous en faites pas, Mrs. Raisin. C'est notre petite plaisanterie à nous. En réalité, cela fait partie du jeu. Tous les mercredis soirs, nous organisons un jeu de rôle fantastique auxquels certains de nos membres participent. Anges, démons, sorcières et sorciers se lancent dans une longue quête.
Ce qui explique les pancartes des vestiaires, observa Agatha.
Exactement, acquiesça Jasper. Je joue une sorte de maître de cérémonie démoniaque. Ma mission consiste à inventer un scénario fait d'énigmes et d'indices menant à divers objets. C'est une vraie bataille de pouvoir qui se solde par une grande finale spectaculaire. Ce sera un sacré événement. Buffet garni, piste de danse, feu d'artifice. Même le guerrier solitaire y joue un rôle. Vous devriez venir.
J'ai toujours eu le goût de bien m'habiller pour une soirée plutôt que, eh bien, ne pas m'habiller du tout.
Dans ce cas, vous allez adorer, fit Jasper tout sourire. Chaque participant tient un rôle et les costumes sont absolument magnifiques. Certains, ajouta-t-il, les yeux pétillants, se contentent d'appliquer de la peinture et des paillettes sur leur peau. Mais la plupart s'évertuent à créer des tenues extraordinaires. Ce sera une belle soirée. Pourquoi ne pas vous joindre à nous ?
Je vais y réfléchir, répondit Agatha en se baissant pour glisser son pied gauche dans sa sandale. Il lui offrit son bras, ferme et musclé, sur lequel elle s'appuya pour enfiler sa chaussure. Elle le remercia et sortit une carte de visite de sa pochette.
Restons en contact ? Votre grande finale promet d'être unique en son genre.
Agatha fit un signe de la main à Tony, qui discutait avec Edward et deux autres jeunes femmes équipées de raquettes et ne portant rien d'autre que des chaussures de tennis. Tony leur dit au revoir et retourna au parking en compagnie d'Agatha. Au milieu de celui-ci, désormais presque plein, était garée une Ford aux couleurs de la police locale.
« Ça, c'était une sacrée expérience !» dit Agatha en faisant claquer sa ceinture de sécurité.
« Une vraie révélation !» ajouta Tony tout en manœuvrant pour repartir. « Qui aurait cru que des nudistes se cachaient dans les bois du coin ?»«
Je parlais plutôt du cadavre fantôme, » observa Agatha.
« C'est louche. En revanche, le club naturiste de Mercer, là, on peut parler d'une révélation. »«
J'ai cru que Wilkes allait avoir une syncope, » s'esclaffa Tony.
« Je n'ai jamais vu personne se mettre dans des états pareils. »
Pourtant, ce n'est pas lui qui devrait être gêné par la nudité, souligna Agatha.
Nous l'avons épinglé dans un bar à striptease il y a peu. Vous vous souvenez?
Mais oui, quel hypocrite! Ce gros dégueulasse était prêt à payer pour regarder des femmes se déshabiller. Mais quand un homme se pointe tout nu, c'est autre chose.
Et Jasper, ajouta-t-elle avec insistance, était un joli spécimen.
J'avais remarqué, répliqua Agatha en souriant.
Je sais que vous avez remarqué. Ça se voyait à des kilomètres. Et vous lui avez aussi donné votre carte. Vous avez prévu de le revoir pour en découvrir un peu plus?
Je crois que j'ai déjà tout vu, dit Agatha d'un ton détaché. Et vous savez bien que je n'aime pas les barbes. Ça sent toujours
la bière éventée et le kebab de la veille, acheva Tony, complétant ainsi l'un des mantras préférés de sa patronne.
J'allais dire le curry, mentit Agatha. Mais je suis ravie que vous prêtiez attention à ce que je dis.
Ça pourrait vous être utile. Quoi qu'il en soit, vous sembliez très éprise de cet Edward. Je croyais que vous vous apprêtiez à vous ranger avec votre policier, Paul.
Nous avons décidé de rester amis, soupira Tony.
Aïe, dit Agatha d'une voix qu'elle espérait teintée de sympathie. Elle était en fait infiniment soulagée que Tony ne soit plus engagé dans une relation sérieuse. Elle était certes jeune, mais fiable et travailleuse, la seule de l'équipe sur laquelle Agatha pouvait compter pour tenir l'agence si elle s'absentait. Pour des raisons purement égoïstes, Agatha avait besoin que Tony soit libre de travailler d'arrache-pied et concentré sur ses missions plutôt que sur le bonheur de son ménage.
Dommage que ça n'ait pas marché, il avait l'air gentil.
Il l'était, je veux dire, il l'est. Mais c'est comme s'il avait déjà planifié toute sa vie. Il sait exactement où il en est et où il veut aller. Quand il ne travaille pas, il étudie pour ses examens de sergent et il vise le grade d'inspecteur d'ici 5 ans. Sa vie est réglée comme du papier à musique. Je commençais à avoir le sentiment de n'être qu'une case à cocher. Trouver une fille, tic, se marier, tic, avoir des enfants, tic, tic, tic. Vous voyez l'idée?
Je pensais que c'était ce que vous vouliez. Un mari fiable, une maison, une voiture, des enfants et 2 semaines de congé à Majorque chaque année.
Qu'y aurait-il de mal à cela?
Demanda Tony en jetant un regard de biais à sa patronne qu'elle soupçonnait à raison de la taquiner.
Mais il faut que ce soit naturel, pas que ça fasse partie d'une espèce de plan de carrière. Et puis, il veut aussi demander sa mutation à la Metropolitan Police à Londres pour avoir des missions plus importantes et davantage de responsabilités.
On dirait qu'il ne voit pas que mon travail est ici, que toute ma vie est ici dans les Cotswolds. C'est chez moi.
Bien sûr, acquiesça Agatha. Il faudrait être idiot pour ne pas le comprendre. Si vous voulez mon avis, on surestime Londres.
Et les hommes aussi, renchérit Tony. C'est un mal nécessaire, admit Agatha. Quoique, pas toujours.
Ah, j'en déduis qu'avec James,
je n'ai pas envie de parler de notre relation. S'il est rentré de son rendez-vous londonien à temps, nous le verrons au mariage. Mais je ne laisserai pas mes déboires sentimentaux troubler la fête. J'ai attendu ce mariage trop longtemps pour que quoi que ce soit me gâche la soirée.
Pas même un meurtre? Ni un corps qui disparaît?
Ça, c'est un vrai mystère, admit Agatha.
Mais je ne pense pas qu'un vulgaire canular ait pu flanquer la trouille de sa vie à un type de la trempe d'Edward.
S'il dit avoir vu un cadavre, je le crois.
Alors qui a été assassiné?
Où se trouve le corps et quelle est l'identité du meurtrier? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir.
Parfait. J'espérais bien que vous diriez ça.
Est-ce que votre béguin pour Edward y serait pour quelque chose par hasard? Vous étiez tellement déterminé à lui promettre de l'aider.
Je n'arrive toujours pas à croire qu'au milieu d'une flopée de gens nus, vous avez dit à un nudiste que nous protégerions ses arrières.
Je n'ai pas pu m'empêcher, dit Tony avec un petit rire gêné, son visage rougissant légèrement.
Je n'ai jamais vu autant de derrière de toute ma vie.
Eh bien, sortez-vous ça de l'esprit et concentrez-vous sur la route, lui intima Agatha.
N'oublions pas que nous sommes attendus à un mariage. Nous allons finir par être en retard.